Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Round the World sur Radio Présence Pyrénées. Alors aujourd'hui, c'est un numéro un petit peu différent parce que habituellement, j'aime à vous faire voyager de par les continents via la musique. Et aujourd'hui, comme quelquefois, je le fais dans l'année, durant ma saison, j'interviewe différentes personnes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans mon émission Guillaume Cyr, qui est à la fois écrivain et universitaire. Bonjour Guillaume.
Bonjour Cédric.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Et donc Guillaume, comme je le disais en préambule, vous êtes écrivain, universitaire, poète, essayiste. Vous avez beaucoup de qualités. Et pourquoi ne pas commencer en vous présentant tout simplement. Habituellement, c'est l'intervieweur qui présente l'interviewé. On va faire la classe renversée. Et là, cette fois, c'est vous qui vous présentez, en quelques mots.
Alors, en quelques mots, je suis Toulousain, j'ai grandi à Toulouse, je l'ai quitté cette ville pendant 15 ans, j'y suis revenu depuis 2017 pour y élever mes enfants. Je suis un père de famille, un mari, un écrivain. Alors, parce que finalement, les différentes casquettes dont vous avez parlé ou cordes ont tout ça en commun, c'est que j'écris. Et j'écris moins pour parler ou pour produire d'abord que pour recevoir. C'est une manière pour moi d'entendre. Écrire est une manière de lire. Quand plus on écrit, mieux on lit, parce qu'en lisant, on se rend compte des choix qui ont été produits par celui qui s'adresse à nous. En écrivant, on regarde aussi, moi en tout cas, c'est ma manière d'habiter le monde, on regarde le monde autrement, on cherche à mettre des mots, des phrases sur ce qui nous entoure, et cela prend la forme, alors, soit d'un essai quand on pense, soit d'un roman quand on raconte, soit d'un poème quand on chante, quand on crée, parce que c'est ce qu'il y a sans doute de plus pur. Mais toutes ces formes différentes sont des formes d'un même élan qui est celui de l'écoute, de la réception, beaucoup plus que de l'émission.
Ce qui est intéressant dans votre propos, c'est que pour vous, donc si j'ai bien compris, écrire, c'est lire le monde quelque part, c'est le recevoir, l'écouter, un peu capter les ondes qui sont parfois brouillées, diffuses, multiples également, peut-être d'en faire un maelstrom dans votre esprit et ensuite en faire une unité sur vos différentes cordes ou registres que vous venez de citer, essais, poésie. Est-ce que c'est ça un peu l'écriture pour vous ?
On peut prendre pour l'expliquer un exemple que peut-être vos auditeurs connaîtront bien. Adam est créé par Dieu et le voilà dans le monde et il a pour rôle donné par Dieu de nommer ce qui l'entoure, c'est-à-dire de donner du sens à un monde qui, sans cela, à ses yeux, à lui, n'en aurait pas. Et c'est à lui de le nommer. Les choses n'arrivent pas à lui avec leur nom. C'est lui qui doit les leur trouver, ces noms-là, ces phrases. C'est lui qui doit dire. Et c'est exactement comme ça que je considère, moi, la parole. Quand on apprend à parler, on apprend à découvrir le sens de ce qui en a en dehors de nous, mais ce qui, tout à coup, grâce à la parole, en a pour nous. Et c'est donc ma réponse à votre question. C'est comme ça que je vois l'action de parler et l'action d'écrire, qui est une parole peut-être mieux organisée, qui est instinctive, mais qu'on peut travailler ensuite comme une matière brute, mais ensuite taillable.
Donc l'écriture, c'est un peu l'épure de la parole, quelque part.
C'est ce qui permet de la fixer et de la travailler. C'est pas son épure, mais c'est sa forme la plus malléable pour recevoir quelque chose qu'ensuite on a besoin de retravailler, parce que la réception n'est pas parfaite. L'imperfection vient de nous, hein, elle vient pas du monde. La parole parfaite dirait tout de suite ce qu'il faut dire, comme ce doit être dit, mais parce que nous sommes imparfaits, parce que nous bégayons, parce que nous cherchons, l'écriture permet de fixer un premier mouvement et de retailler ce mouvement jusqu'à ce qu'il épouse la toute première intention qu'il a fait naître.
Quand vous écrivez, est-ce que vous tournez cette fois le crayon dans la main avant de poser un mot?
Oh, des milliers de fois, je me laisse beaucoup entreprendre et puis un jour je donne un grand coup de pied dans l'arbre et le fruit tombe. Mais oui, tout tourne beaucoup, souvent, avant que quoi que ce soit ne puisse être dit.
Et quand vous écrivez, est-ce que vous avez besoin de conditions particulières, d'un cadre particulier, ou alors vous écrivez au moment où l'inspiration vient et vous avez, peut-être tout écrivain qui se respecte, un carnet avec un crayon, peut-être vous avez aujourd'hui des nouvelles technologies, des nouveaux outils qui vous permettent instantanément de taper sur l'écran votre pensée ou... Et puis, je sais pas, est-ce que vous avez un cadre de prédilection pour écrire? Vous avez, par exemple, passé, sauf erreur de ma part, quelque temps en Corbière, dans les Corbières. Est-ce que vous en avez en même fait, le décorum d'un de vos livres, d'un de vos romans, Les Contreforts? Est-ce que, vous avez besoin... de conditions et d'outils particuliers?
Alors, on me pose souvent cette question et la réponse est non. Je n'ai aucun dispositif particulier, je n'ai aucune cérémonie à faire, j'ai pas de... En fait, moi, j'écris toujours, tout le temps, donc je peux prendre des notes si j'ai un cahier et un crayon pour prendre des notes, ou alors je m'envoie parfois des textos à moi-même, vous voyez, si j'ai mon téléphone sous la main... Je peux avoir un ordinateur, l'ordinateur de quelqu'un d'autre, je peux écrire sur un petit bout de quoi que ce soit. Et puisque ensuite, plus tard, je retravaillerai. L'idée est d'abord de laisser libre cours à ce que j'appelais tout à l'heure la réception, puis de retravailler et là, d'être comme à l'établi, quoi, un artisan qui vient trouver le bon taillage, s'approcher de la bonne forme doucement et... voilà, ça ressemble plus à un travail d'artisan que à ce qu'on imagine quand on imagine comme ça un poète foudroyé par l'inspiration. Et d'ailleurs, l'artisan, on le trouve pas orgueilleux le jour où il dit cette table, si c'est un ébéniste par exemple, cette table est une bonne table. Elle est bien faite, le bois est bon, j'ai réussi mes mi-bois, j'ai réussi mes tenons mortaises. Elle sera encore là dans 200 ans, elle est solide, réussie, équilibrée, j'ai fait une bonne table. On sait qu'il sait de quoi il parle, et on ne le trouve pas orgueilleux quand il dit ça, parce qu'il est aussi capable de dire qu'il a raté une table, que c'est une mauvaise table, qu'elle est mal taillée. Donc il n'est pas orgueilleux. Moi, je suis comme l'artisan, c'est-à-dire que comme je travaille à l'établi beaucoup, sur tous les supports possibles, et jusqu'à avoir exactement la phrase que je voulais... Quand j'ai fait un bon poème ou un bon roman, je sais quand même que j'ai fait un bon roman. Je dis, c'est un bon roman, celui-là. Mais j'en ai raté certains. J'ai des textes qui sont moins bons que d'autres. Mais tout ce travail permet à la fin aussi, parce que je le fais depuis tellement longtemps, de savoir quand même ce qu'on a fait.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas peut-être une forme de... Je vais un petit peu vous contredire, parce que vous disiez tout à l'heure, il y a une forme d'humilité quand l'artisan dit, ben voilà, l'ébéniste, je fais une table, cette table va durer pendant des siècles. Voilà, on est parti sur 200 ans. Est-ce que vous voudriez que vos textes durent autant?
Ah non, non, mais ça, bon, ça, le succès, c'est encore autre chose. C'est une science très inexacte, très injuste, absolument insondable. Qu'est-ce qui sera encore lu ou non dans 50 ans? Si on se pose cette question, on écrit autre chose, autrement, on est déçu forcément. Le but, c'est de parfaitement bien, comme l'artisan d'ailleurs, faire son travail. Après, où est-ce qu'il sera? Dans quelles mains il tombera? Qui le verra? Est-ce que d'une manière ou d'une autre, il sera encore lu? Ça ne m'appartient pas, je suis pas du tout obsédé par ça, j'y pense très peu. Non, je le fais pas pour ça du tout. Non, je fais du bon travail sans autre objectif que de faire du bon travail. Et je préfère faire du bon travail, écrire un bon livre que personne ne lira jamais, plutôt qu'un mauvais livre qui sera lu par des centaines de milliers de personnes qui l'adoreraient. Même quand bien même ils l'adoreraient, je saurais moi que c'est un mauvais livre et ça me gênera infiniment. Donc non, non, non. Le but, c'est de faire du bon travail.
Alors pourtant, un auteur pour vivre doit vendre des bouquins, mais à l'inverse, ce qui est intéressant dans votre propos, c'est que bah, pour vous, le plaisir d'écrire compte plus que gagner des revenus à partir de cette écriture, même s'il faut quand même avoir du pain dans la soupe alors, le soir quand on rentre.
Oui, j'ai jamais parlé de plaisir. Hein. C'est pas du plaisir. Hein. C'est du tout. C'est pas un divertissement. C'est pas du plaisir. C'est pas un hobby. C'est toute ma vie. C'est-à-dire que je fais ça du matin au soir sans arrêt. Et c'est du travail, c'est-à-dire que c'est fatigant, on doute, on se demande ce qui se passe, on cherche. Il y a des moments qui sont des moments de grâce, mais qui coûtent très cher en matière de travail. Donc c'est pas du plaisir. Et ensuite, vendre des livres pour vivre. Alors c'est cette question intéressante puisqu'on me pose souvent la question, est-ce que tu en vis? Alors moi c'est parce que j'en vis, c'est très beau de dire en vivre, c'est parce que j'en vis que j'ai essayé le plus possible d'en être dégagé du point de vue de l'intendance, de pas en avoir, vous voyez, Paul Claudel écrivait à Jacques Rivière quelque chose de très beau, il disait si c'est votre vie, la littérature, et que vous en avez besoin pour gagner de l'argent, ça a un nom de vendre ce qui est sacré pour nous, ça s'appelle la prostitution. Alors, évidemment, moi, je ne vais pas aussi loin, mais la remarque est assez intéressante. Si c'est ma vie, alors je ne veux pas avoir un rapport d'argent avec ce qui est le plus sacré pour moi, le plus nécessaire, qui n'est pas du plaisir. Et la preuve est là, c'est que je passe quand même le plus clair de mon temps à écrire des poèmes. Or, les poèmes, vous gagnerez jamais d'argent en écrivant des poèmes. Ça n'existe pas. Et c'est un acte qui est nécessairement gratuit. Parce que même quand on publie des recueils de poèmes, il n'y a pas d'argent gagné avec ça. Et alors, si on le rapporte au temps travaillé, vraiment, il y a absolument aucun intérêt financier à écrire des poèmes. Et pourtant, c'est ce qui me prend, moi, le plus de temps. Et donc, un peu la preuve que j'en attends rien financièrement. Regardez les écrivains. Tous les écrivains qui n'écrivent que des textes qui sont vendables, solubles dans le marché, sont pour moi à l'opposé du spectre de artistique dans lequel moi je me trouve. Quoi.
Merci pour cette réflexion. Alors on va faire une petite pause musicale et vous nous avez proposé à l'écoute quelques titres lorsqu'on a préparé cette émission en amont. Et donc on va écouter Jacques Brel, le titre « La quête ». Et on s'évade quelques instants pour se retrouver juste après afin de continuer cette interview.
Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille et les villes s'éclabousseraient de bleu parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal pour atteindre à s'en écarteler pour atteindre l'inaccessible étoile.
Nous venons donc d'entendre la quête du grand Jacques Brel, proposée par Guillaume Cyr, avec qui aujourd'hui je partage le micro pour ce nouveau numéro de Round the World sur Radio Présence Pyrénées. Alors on va continuer un petit peu l'interview avec Guillaume. Guillaume est aussi, en plus d'être un écrivain, un enseignant-chercheur en information et en communication. Et dans sa bibliographie, deux livres, moi, m'ont un petit peu interpellé liés à son domaine de recherche ou à une inspiration liée à son domaine de recherche, on va dire, réel, qui est un petit peu une réflexion sur les prémices de la télé-réalité et le rapport qu'on peut avoir à soi, peut-être via ce biais-là, tout du moins c'est ce que moi j'ai compris de ce livre-là, mais Guillaume me corrigera peut-être. Et puis une réflexion en fait sur l'Internet ou si l'on n'avait pas l'Internet, qu'est-ce qui se passerait ? Dans Où la lumière s'effondre, sorti en 2016. Guillaume, est-ce que finalement, ce champ de recherche en information et communication, c'est une source d'inspiration pour votre œuvre romanesque et peut-être aussi vos essais ?
Alors oui, parce que, en fait, qu'est-ce que c'est l'information et la communication ? L'information, c'est la mise en forme de quelque chose, du sens. Et la communication, c'est sa mise en circulation. Et en fait, toute société repose sur une information qui nous permet de vivre ensemble, sur vous voyez, le droit, l'économie, d'abord, tout ça, c'est de l'information qui circule, et puis finalement, les rapports des uns aux autres passent forcément par la médiation du langage. Donc pour un écrivain, c'est assez logique de s'intéresser à ces choses-là, et en particulier à ce qui a changé dans ces dernières décennies de nature dans ces choses-là, puisque elles se sont accélérées, densifiées, fluidifiées, étalées, et donc oui, ça m'intéresse, ça m'a intéressé pour deux romans. Alors je suis pas certain que je le referai, mais j'ai écrit deux romans pour poser des questions. Les romans sont toujours là plus pour poser des questions que pour y répondre, pour les muscler, pour les déployer autour de ces deux sujets dont vous venez de parler. D'abord la télé-réalité qui est née en 2001 en France. Le même été, nous avons eu les tours jumelles qui s'effondrent à la télé en septembre, et au début de l'été, la première émission de Love Story. Et la télévision de mon enfance a changé ce jour-là pour toujours, puisque nous avons commencé ce rapport à la télé-réalité, ce rapport aussi à la vérité qui a donné le complotisme. C'est la grande naissance du complotisme en 2001. Les tours s'effondrent, mais c'est comme un film, c'est pas vrai, c'est scénarisé. Finalement, tout de suite, le doute, la suspicion. On voit Love Story, on dit, mais c'est préparé, c'est truqué. Vous voyez, un rapport à l'image et à la vérité qu'elle est censée porter qui est assez fondateur pour comprendre notre époque d'aujourd'hui. Ce qui est d'autant plus intéressant que Loana, hélas, vient de mourir. Donc ça, là aussi, ça pose bien des questions. La première héroïne de ce Loft. Et regardez, aujourd'hui, il n'y a plus que de la télé-réalité, puisque si vous regardez une émission toutes ces émissions, des talk-shows, quelle que soit la chaîne, en fait, ils sont là autour d'une table, filmés presque toute la journée pour dire tout ce qui leur passe par la tête. Moi, je trouve qu'il n'y a pas une grande différence de nature entre Pascal Pro et Loana. Il est filmé à longueur de journée pour qu'on le regarde vivre et qu'il dise ce qui passe par la tête en prétendant que c'est de la pensée. Mais bon, c'est comme, pour moi, c'est une émission qui ressemble à Love Story plus qu'à n'importe quelle autre. Et donc, j'ai voulu faire un roman là-dessus. J'ai voulu montrer, moi, la réalité en inventant tout grâce à la fiction. J'ai voulu justement retrouver une vérité que la télé nous empêche de toucher du doigt et retracer le parcours de ces héros contemporains que sont les images projetés par l'écran d'individus qu'on a l'impression de connaître, de saisir, parce qu'on les voit dans cette lucarne. Enfin, ça m'a passionné. Et pour Internet, bon, c'est un autre projet, mais j'ai voulu parler des ingénieurs là qui sont derrière ces câbles, ces serveurs, ces routeurs, et de les montrer comme des Prométhées un peu de notre époque, revisiter le mythe de Prométhée à notre époque et autour de ces technologies numériques. Et là encore, je pense que ce roman qui date de 2016, maintenant qu'arrivent les intelligences artificielles, est encore plus d'actualité que quand je l'ai écrit. Je pense pas que j'ai été un prophète, mais je pense que j'ai eu la chance de pas me tromper en l'écrivant.
Quelque part, prophète dans son étymologie, c'est parler avant. Vous avez peut-être écrit avant. Alors, je ne sais pas, moi, j'ai pas fait grec, donc je peux pas vous dire comment on pourrait l'imaginer en termes traduits. Maintenant, ce qui est intéressant, votre réflexion me fait écho, alors, de manière peut-être plus humoristique, à une chanson de Goman qui disait « Elle vit sa vie par procuration ».
Oui.
Et l'Internet d'aujourd'hui me fait penser à l'anonymat, en fait. Le fait qu'aujourd'hui, on peut dire tout et n'importe quoi, comme vous le disiez, dans une information diluée, qui s'étale, qui circule. Dans une sorte, c'est Gilles de Ronet qui parlait d'une société fluide, à une image peut-être d'outils qui permettent cette communication fluide dans une sorte de flux où on ne sait plus où on en est. Quelque part, le besoin de lire et le besoin de roman permet aussi de faire ces temps d'arrêt et de s'interroger. Et c'est là toute la pertinence des travaux tels que vous le faites en tant qu'écrivain, selon moi. Mais est-ce que, quelque part, la télé-réalité, comme l'Internet, ne correspond pas à une évolution naturelle de la condition humaine ou c'est une réponse à des besoins naturels de la condition humaine ? Qu'en pensez-vous ?
Oh, ça, c'est de toute manière, tout ce que l'humain produit est toujours une réponse à ce qui en lui d'abord a été un appel. Donc de là à dire ou à laisser croire ou sous-entendre, ce qui est peut-être le cas dans votre question, que c'était écrit avant, je ne crois pas. Je ne crois pas en ce qu'on appelle la téléologie, donc le destin, le télos. Je pense que l'être humain peut négocier son avenir technique, que aucune invention n'est irrémédiable, que on peut réguler, qu'on peut refuser, qu'on peut communiquer autrement et que c'était pas écrit. Ça, je suis sûr que demain on pourrait renoncer à ce qui aujourd'hui nous semble fondamental. Et je le dis d'autant plus que les intelligences qui ne sont ni intelligentes ni autonomes, mais ces logiciels d'intelligence artificielle, pose à mon avis de nombreux problèmes et que peut-être on aura raison un jour de s'en passer totalement, quitte à réguler pour ça avec autorité. Donc voilà, mais après oui, ça, de toute manière, toute création humaine porte la marque de son créateur, porte son empreinte, est faite à son image, dit quelque chose de lui et pas toujours ce qu'il voudrait qu'elle dise, et donc est un sujet... L'innovation technique, merveilleux pour un romancier. Il suffit d'ouvrir la boîte que les ingénieurs ont voulu fermer pour retrouver des rapports d'autorité, des histoires d'amour, de la haine, des illusions perdues. Vous voyez, on les retrouvera toujours dans les boîtes que la technique a prétendu fermer.
L'important dans votre propos, c'est que le créateur, l'auteur, celui qui invente de nouveaux outils, il faut que l'homme reste maître des outils qu'il développe.
Oui. Alors, je vais vous faire une petite histoire grecque pour vous expliquer ça. Prométhée, puisque vous me parliez tout à l'heure d'étymologie, Prométhée, ça veut dire celui qui réfléchit avant, celui qui est prévoyant. Et Prométhée vole le feu à Zeus, qui chez les Grecs représente la technique, le feu qui permet de chauffer la salle commune, de fondre le métal. Il vole le feu, il vole la technique pour le donner aux hommes. Et son frère, Épiméthée, c'est celui qui réfléchit après coup. Donc il a l'air idiot quand on entend ça, celui qui réfléchit plus tard. Et entre les deux, il y a une femme qui est un piège, qui est Pandore et sa boîte. Et cette femme n'épousera pas Prométhée, mais Épiméthée, celui qui réfléchit après. Et elle vient chez lui avec la boîte. Et l'histoire du monde, son destin, se passe entre eux, entre celui qui réfléchit après, entre cette femme parfaite, qui est la première femme, cette première histoire d'amour et la boîte. Et Prométhée n'en fait plus partie, lui qui avait volé le feu, il est enchaîné à son rocher pour toujours. Eh bien, je crois que l'ingénieur, comme le politicien, le décideur, peut-être même l'universitaire, ils sont avec Prométhée enchaînés à leur rocher, et que l'artiste, le romancier, le poète, avec son histoire d'amour, sa folie, son instinct, c'est celui qui réfléchit après coup, qui avait d'abord l'air idiot, d'abord l'air inutile, et il vient, lui, avec sa grande histoire d'amour, cette boîte remplie des mots du monde, mais aussi de l'espérance, et c'est dans ses mains à lui que l'histoire aura lieu. Elle n'est pas déjà écrite, mais c'est bien lui qui l'écrira, la commentera, et lui seul qui lui survivra.
Est-ce qu'on peut dire que vous réfléchissez avant et pensez après ?
Non, moi je pense toujours après, je ne réfléchis pas tant que ça avant. Pour réfléchir, il faut avoir... C'est le même verbe que le miroir qui réfléchit la lumière. On ne peut réfléchir que ce qui a déjà eu lieu. Et donc, c'est toujours après. C'est une illusion de croire qu'on réfléchit aux choses avant qu'elles se produisent. Toute vraie réflexion est une réaction à quelque chose qui est plus grand et plus vrai que nous.
Alors, on va continuer à notre émission de ce jour en écoutant un second titre musical que vous m'avez proposé, La beauté du cœur de Damien Saez. Et comme l'émission avance bien et que nous mériterions de continuer même cette interview bien au-delà d'un premier numéro de Round the World sur Radio Présence Pyrénées, nous écoutons ce titre et on se retrouve juste après pour quelques petits mots de conclusion avec Guillaume Cyr.
Et à tous les rêveurs, tous les fraternels de ce monde, à mes frères anarchistes, à la beauté des fleurs, cette petite fille sous les bombes, dessinons une étoile comme une destination, créons de sa plume orpheline, ses jambes bras ouverts qui offrent l'horizon aux yeux de ses enfants de l'exil. À celui qui héberge, celui qui va sans toit, aux migrants accueillis en chemin, aux soignants tenant main, à celui qui s'en va, aux mendiants à l'offrande du vin, à l'alcool partagé, à celui qui a froid, à celui qui offrira son pain, à ces gens dont la vie reste le seul combat, celui dont survivrait le destin, à celle qui donnera le sein à l'orphelin, à ceux dont le seul Dieu est partage, à la mère pardonnant un jour à l'assassin de son enfant sachant du naufrage, que la haine fait ici quand sonne la vengeance, celui dont le cœur reste amour, à ces âmes éclairées qui n'ont pour seule violence que les larmes à leurs yeux en tambour, à l'animal courant droit vers le sacrifice, sa vie pour sauver son maître, à celui se jetant encore dans le précipice pour remonter le corps d'un autre être, à celui dans les flammes qui sacrifie sa vie pour tenter de sauver un berceau, à l'oiseau dont les ailes blessées par le fusil recouvrent leur envol pour là-haut, à ces chants de marins, la nuit venant du large, à mitrain qu'on nos vins, nos sanglots, c'est à l'encre des yeux que s'écrivent nos pages, aux mémoires de ce parti là-haut, aux étoiles éclairant l'univers de la nuit, des prénoms et de nos amis morts, à ces soleils toujours faisant naître la vie, des ténèbres en accouchant l'aurore, au partage de l'avoir pour la beauté de l'être, puisque c'est notre histoire malheureuse, toujours la lutte entre l'être ou bien le paraître, entre le milliardaire et le gueux, à celui dont la gloire oui, se compte en offrant et en plus grand nombre de diamants, à ces gens qui n'ont rien que leur propre viande, si tu savais comme leur cœur est grand,
Ces adolescents pavés contre matraque pour lever vers le ciel tête haute à la mort. Ces fous magnifiques, la rose face au char, corps des disparus de ces navires sans port, qui seuls face au naufrage bravant tous les typhons. Dans la brume soudain aperçoivent une plage, à celui dont l'amour le laisse sur un carrefour, comme on laisse une balise, comme on laisse un bagage. À la femme violée redécouvrant tendresse, ses enfants battus découvrant la caresse. Quand l'amour vous offre la délicatesse, croyant sans église, redécouvrant la messe. À toute l'humanité dans ce mouchoir tendu, à celui dont les yeux s'inondent sous les crues. Contre tous les outrages, contre toutes les moqueries, il n'est pas de plus grand courage qu'être gentil. Il n'est pas de plus grand courage qu'être gentil. Il n'est pas de plus grand courage qu'être gentil. Contre tous les outrages, contre toutes les moqueries, il n'est pas de plus grand courage qu'être gentil.
Nous venons donc d'entendre le titre « La beauté du corps, du cœur, pardon, » de Damien Saez. Je suis toujours avec Guillaume Cyr dans Around the World sur Radio Présence Pyrénées. Alors, on en était sur le fait de réfléchir après et pas avant. Et pour terminer un petit peu cette belle interview, et j'espère que nos auditeurs l'auront appréciée, je crois que vous avez une actualité littéraire prochainement. Quelle est-elle ?
Oui, en août prochain, je sortirai mon 7e roman qui s'appelle Chante méchante, qui raconte l'histoire d'une femme qui apprend qu'elle va mourir dans quelques mois parce qu'elle a une maladie incurable et elle décide d'aller retrouver son ex qu'elle n'a pas vu depuis presque 20 ans. Donc elle quitte son mari, ses enfants, elle quitte sa vie. Et elle veut revoir cet homme une dernière fois avec qui elle a été affreusement méchante 20 ans plus tôt, sans pitié. Et elle veut le voir une dernière fois avant de tout quitter. Donc elle part sur l'île de Guernesey où d'autres sont partis en leur temps pour braver son destin.
Pèlerinage et rédemption au menu ?
Ni rédemption, ni pèlerinage, mais dernier tour de piste.
Merci Guillaume pour cette belle interview. Et je vous dis à très bientôt sur Radio Présence Pyrénées pour un nouveau numéro de Around the World. Comme vous le savez, cette émission est partageable avec tous les boutons qui vont bien, des réseaux sociaux qui vont bien sur le site de Radio Présence. Et vous pouvez également la réécouter en ligne sur le site de Radio Présence. Je vous dis à très bientôt. Au revoir Guillaume.
Au revoir Cédric.